Ukraine must win this war, and Putin's aggression must be a strategic failure.
La défaite de Poutine est pour nous quelque chose que nous devons réussir dans cette guerre. Mais nous ne pouvons pas la réussir dans les circonstances actuelles avec les moyens qui sont sur la table.
Avec ces déclarations, on comprend mieux pourquoi le gouvernement a trouvé important de moderniser, comme le répètent en boucle de nombreux médias traditionnels, les conditions de réquisition des personnes et des biens en cas de guerre. Car oui, dans la loi de programmation militaire votée le 14 juin 2023, l'article 23 met à jour les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron peut vous envoyer faire la guerre sur le terrain en Ukraine ou alors réquisitionner vos biens ou votre entreprise pour soutenir l'effort de guerre. Il y a donc bien deux sujets. Le premier, est-ce que le gouvernement français soutenu par la Commission européenne veut réellement vous envoyer vous battre en Ukraine? Et le deuxième, en ce qui concerne votre épargne ou vos entreprises, comment pourrait-il les réquisitionner pour soutenir l'effort de guerre? Alors pourquoi moderniser cette loi sur les réquisitions précisément alors que tant de lois auraient besoin d'être modernisées et qu'il y en a encore au moins autant qui auraient tout simplement besoin de leur décret d'application pour qu'elles soient tout simplement utiles à quelque chose? Non, il faut être un peu hypocrite pour expliquer que cela n'a rien à voir avec les velléités du pouvoir de nous envoyer au front si besoin. En réalité, voici le cœur du sujet. Jusqu'alors, on pouvait nous mobiliser si le territoire français était attaqué directement. Or maintenant, cette notion de protection du territoire et de guerre a été étendue à la notion de menace militaire qui regroupe de fait des limites bien plus floues afin que le président puisse nous enrôler pour défendre les frontières de l'OTAN par exemple. Comme l'explique Jean-Paul Marcus, professeur de droit abondamment cité par les médias traditionnels en ce moment, les guerres ne sont plus seulement militaires, elles passent par l'espace, les satellites, les mers et ces gazoducs et j'en passe. Alors oui, il n'y a rien de strictement inquiétant dans cette loi. Mais alors pourquoi sommes-nous inquiets? Car je sens bien cette fébrilité monter ne serait-ce que dans mon audience. La France d'en bas, comme le disait Raffarin quand il était ministre. Eh bien, ce qui est inquiétant, à mon sens, c'est ça.
Nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. C'est absolument indispensable. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La plupart des membres de l'Union européenne, comme vous le savez, 23 pays, sont membres de l'OTAN. On a entendu les propos de Donald Trump. Donc tout le monde maintenant a conscience, en Europe, j'allais dire enfin, parce qu'il était temps, qu'il était absolument indispensable de reprendre notre destin en main et donc notre base industrielle.
Dans ces propos, il y a une ambiguïté très forte. D'un côté, on parle de reprise en main de l'industrie de la défense, tout comme on parle de moderniser les lois sur les réquisitions. Ok, pas de problème en soi. Mais de l'autre, Thierry Breton, commissaire européen, emploie le mot « économie de guerre », tout comme Macron parle éventuellement d'envoyer des troupes au sol, et tout comme Ursula von der Leyen affirme que la Russie ne peut pas gagner. Et là, on a un discours qui vise clairement l'intensification du conflit avec la Russie. Une économie de guerre, c'est quelque chose de précis. C'est le moment où toutes les ressources, ou presque, du pays sont mises au service de la production d'armes pour aller casser la figure du gars d'en face. En économie de guerre, vous ne tenez pas plus de quelques années, car votre économie est consumée par l'industrie de l'armement. Le seul échappatoire pour votre pays, c'est d'aller tuer votre opposant et de compenser cet arrêt de l'économie marchande par des butins de guerre éventuels. Et Thierry Breton a de nombreux défauts, mais je suis certain qu'il maîtrise très bien le sens des formules qu'il emploie. C'est la même chose avec Macron qui nous explique en 2020 que nous sommes en guerre contre un virus.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
À quoi a servi cette expression qui pouvait passer pour de la rhétorique mal placée? Eh bien, à déclarer un état d'urgence et enfermer tout le monde ou presque chez soi pendant plusieurs mois. À juste titre ou non, là n'est pas la question. Le sujet ici, c'est que Macron sait très bien qu'il choque, par son expression, afin de préparer l'opinion à l'état d'urgence qui est contesté, puisque certains voisins comme la Suisse ou les Suédois ne déclarent pas d'état d'urgence. Donc ce que j'en conclus, en toute logique, c'est que nous avons peur de ce gouvernement et de la Commission européenne. Ces personnes cultivent un double discours dont le but est de tester à chaque fois les limites de l'opinion et les limites des autres gouvernements. C'est un double jeu malsain. Un bon psychologue vous expliquera que les doubles discours dans votre couple, par exemple, vous conduiront immanquablement à des crises dans lesquelles l'autre finira par penser que vous êtes fou ou qu'il devient fou, si vous avez assez d'influence sur lui. Car le double discours vous permet de penser que vous allez pouvoir vaincre l'autre sans le convaincre. C'est une pression psychologique qui vise à vous faire accepter ce que vous ne voulez pas. Donc, lorsque les gens commencent à péter les plombs sur les lois de réquisition des hommes et des biens, ou alors sur le vaccin contre le Covid, ce n'est pas un hasard. Les gens normaux sentent bien qu'il y a une arnaque entre le discours et la direction que le pouvoir veut prendre. Et cela se cristallise sur des choses parfois sans importance, afin de pouvoir exprimer son opinion à des gouvernements qui refusent de l'entendre et essaient de nous embrouiller. La bonne réponse en termes de communication à des doubles discours, c'est la réponse de Poutine qui a clairement mis les pieds dans le plat et marqué sa position sans ambiguïté stratégique, justement. Donc pour se résumer, on ne sait pas. Par contre, nous voyons deux camps se dessiner. Le camp de la guerre d'un côté avec la France, des pays de l'Est et la Commission européenne qui est clairement en train de pousser pour que la guerre continue et prenne de l'ampleur. Et oui, si ce camp gagne, alors nous serons mobilisés et nous irons nous faire dégommer en Ukraine contre l'armée russe, puisque dans ce camp, la Russie doit perdre la guerre. Elle ne peut pas gagner. Évitons les doubles discours, justement. Un bon point pour nous, c'est que ce camp de la guerre n'a aujourd'hui clairement pas les moyens de ses ambitions. Mais il y a aussi le camp de « la paix » entre guillemets, c'est des grosses guillemets, qui comprend tout de même l'essentiel du reste des pays d'Europe, l'OTAN et les USA, qui n'ont pas du tout envie d'étendre le conflit. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors oui, l'OTAN n'est pas du tout innocente dans ce conflit, mais cette organisation semble connaître ses limites et en avoir conscience. Elle ne veut pas d'une guerre qui dégénère et qui implique ses hommes. À la base, l'OTAN voulait simplement que la Russie se ratatine sur elle-même, pas provoquer une guerre mondiale. Visiblement. Un élément qui pourrait être sympa pour le camp de la paix, ce serait la réélection de Trump. Non pas qu'il soit plus gentil que les autres, mais plutôt car il sait que lutter militairement contre la Russie est contre-productif. C'est un calcul froid. Mais personnellement, je préfère cela à des va-t-en-guerre qui sont prêts à m'envoyer au front pour sauver leur vision fantasmée du monde. Maintenant, prenons un peu de recul. Toutes ces tensions témoignent d'un bouleversement de l'ordre mondial en cours, lié à la perte de puissance relative des USA face à la Chine et par extension aux BRICS. Ray Dalio explique cela avec brio.
Over the last few years, three big things that hadn't happened in my lifetime prompted me to do this study. First, countries didn't have enough money to pay their debts, even after lowering interest rates to zero. So their central banks began printing lots of money to do so. Second, big internal conflicts emerged due to growing gaps in wealth and values. This showed up in political populism and polarization between the left, who want to redistribute wealth, and the right, who want to defend those holding the wealth. And third, increasing external conflict between a rising great power and the leading great power, as is now happening with China and the United States. So I looked back. I saw that all these had happened together before, many times. And nearly always led to changing domestic and world orders. The last time this sequence happened was from 1930 to 1945.
Voilà. Comprenez bien que tout cela n'a absolument rien d'original et que nos sociétés humaines sont passées par là de très nombreuses fois. Il est donc crucial d'échapper à toutes les rhétoriques du camp du bien contre un camp du mal. Ces récits des gentils contre les méchants sont orchestrés par les puissances en place. Et c'est même précisément à cela que sert la CIA aux USA. À renverser des États en fonction d'un récit qui sert les États-Unis. Les États n'ont pas d'amis et n'ont pas d'âme, ils ont des intérêts et agissent au travers de rapports de force. Une guerre, comme le dit Emmanuel Todd, c'est l'affrontement de deux systèmes industriels qui appartiennent à deux nations rivales. Et c'est tout. Tout le sujet pour nous, petits citoyens bien impuissants face à tous ces changements tectoniques, c'est de savoir comment s'adapter. Comment adapter nos vies pour ne pas être broyés par ces grands changements géopolitiques sur lesquels, à notre petite échelle, nous n'avons strictement aucun impact, même par le vote. Pourquoi n'avons-nous strictement aucun poids? Car ces mouvements de l'histoire avec un grand H ont des causes structurelles qui nous dépassent en tant qu'individus. Nous parlons souvent de patrimoine financier sur cette chaîne, mais aujourd'hui je pense sincèrement, car je l'ai fait moi-même, que s'expatrier pour ceux qui le peuvent et qui en ont l'envie est une bonne idée. Déjà, car s'expatrier, c'est quand même partir à l'aventure et que c'est toujours intéressant d'y réfléchir. Mais aussi car la France offre un cadre de développement économique et social pour une famille en déclin. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, mais si vous regardez l'état de l'école, de la justice ou de l'hôpital, vous comprendrez assez facilement ce que je veux dire. Quant à la police, au-delà du manque de moyens, c'est également la corruption qui commence à s'étendre au sein des effectifs. Si l'on ajoute à cela un discours « va-t-en-guerre » et des gouvernants qui cultivent l'ambiguïté stratégique pour endormir la vigilance de ses citoyens face à des menaces géopolitiques très largement attisées, je me dis que si vous êtes tenté par l'expatriation, le moment pourrait y être propice. C'est pour cela que nous avons fait une formation sur l'expatriation qui vous permettra de vous projeter sur ce sujet. On vous explique toutes les solutions de la moins coûteuse à la plus complète pour obtenir une nouvelle nationalité ou un nouveau passeport. On analyse 90 pays où l'expatriation est possible selon 25 critères. Nous vous donnons aussi une vingtaine de noms de banques à l'étranger pour mettre votre épargne le plus loin possible des turpitudes de l'Occident. Enfin, on vous explique aussi les erreurs classiques d'évasion fiscale qui marchent et qui fonctionnent encore, mais sur lesquelles nous n'avons aucune confiance car vous vous ferez pincer un jour ou l'autre. Si vous voulez vous expatrier, faites-le bien et pour de vrai. Pour avoir plus d'informations, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Autre piège du moment à éviter savamment, c'est le projet de Bruno Le Maire de mettre en place une épargne européenne. Le projet est très flou, bien évidemment, je ne vous le cache pas, mais fondamentalement, Bruno Le Maire veut un moyen pour mutualiser l'épargne des Européens qui dormiraient sur des comptes courants. Pourquoi proposer une sorte de livret A européen, en gros ? Eh bien, comme d'habitude, pour financer la transition énergétique, climatique, l'innovation et la recherche, bien sûr, mais aussi le financement de la défense européenne. Pour reprendre les choses calmement, s'il n'y a pas d'argent dans la transition énergétique en France, c'est peut-être car le modèle anti-nucléaire et anti-énergie fossile est moisi. Mais ça, ça n'est pas sur la table. Ensuite, s'il n'y a pas d'argent dans la transition climatique, c'est peut-être qu'il n'y a aucun projet de développement économique à en attendre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien que le jour où il faut ériger une digue pour protéger une ville des eaux, ce n'est pas un projet qu'un entrepreneur peut créer avec un rendement, car ce type d'infrastructure se finance par l'impôt, car il est d'intérêt collectif. Or, les entrepreneurs ne lèvent pas d'impôts. Quant à la recherche et à l'innovation, le crédit d'impôt recherche a bien transformé la France en un petit paradis fiscal sur ce sujet-là bien précis, mais au-delà de ça, l'innovation et la recherche n'ont pas connu de grands changements spectaculaires grâce à ce crédit d'impôt. Pourquoi ? Car le développement des idées, ça demande du temps, de la constance, mais surtout de la liberté pour entreprendre et essayer tout un tas de choses. Reste dans ce plan européen la contribution à l'économie de guerre, comme dirait Thierry Breton, je trouve ça plus explicite que l'Europe de la défense. Là encore, on ne finance pas la guerre par des produits d'investissement rentables, un russe tué égale 10 euros de rendement supplémentaire. Non, et pour des raisons évidentes, la guerre n'est jamais rentable à court terme. Elle l'est rarement à long terme, et lorsqu'elle est « rentable », entre guillemets, c'est par une réorganisation de l'ordre mondial qui termine un cycle de 50 ans. Bref, non. La guerre, ça se finance par des impôts, car c'est un service public, pas par des produits à rendement qui sollicitent de l'épargne. Alors pourquoi Bruno Le Maire veut-il faire un produit d'épargne européen à la noix ? Ma meilleure réponse, en faisant l'hypothèse qu'il est rationnel et intelligent,
J'écoute.
C'est dans le but de pousser l'intégration européenne. Cela semble une obsession de ce gouvernement, tout faire pour dissoudre la France dans l'Union européenne. Là, effectivement, ça peut marcher, puisque collectiviser l'épargne à l'échelle de l'Union européenne, c'est commencer à collectiviser les ressources de chaque État. Au lieu de faire une union budgétaire, dont personne ne veut, il pourrait commencer par une mutualisation des capitaux, ce qui revient à mutualiser des ressources quand même. Alors oui, cela permet de passer en force alors que le sujet d'une fédération européenne devrait avoir l'aval populaire par le vote. Mais passons sur ce détail de démocratie qui n'intéresse visiblement plus aucun président français depuis la négation du résultat du référendum de 2005. Par contre, le risque de cette stratégie, c'est d'affaiblir la France car mutualiser l'épargne avec les Roumains, voire les Ukrainiens et à l'échelle européenne, revient à diminuer la richesse directement attribuable à la France. Or, c'est un problème, car la richesse du pays fait partie des actifs qui permettent au marché de pondérer la dette qu'ils sont prêts à prêter à la France. Et oui, plus un pays est riche, plus un État a la capacité de lever des impôts. Tout cela me semble donc très dangereux pour la France, au-delà même du danger évident pour votre épargne avec un projet aussi bancal que ça. Pour bien comprendre le degré d'impréparation et d'improvisation avec lesquels le gouvernement français aborde tous ces sujets épineux, allez voir cette vidéo où je vous explique dans quelles conditions la France souhaite entraîner l'Union européenne dans la guerre avec la Russie. Avoir des idées folles est une chose, mais se voiler la face sur les moyens dont on dispose, c'en est encore une autre.